RCF.
Bonjour, amis auditeurs, auditrices de l'émission La vie militaire dans le Cher et le Berry, avec Agora Défense et dans le cadre du Berry se raconte. Notre invité aujourd'hui n'est pas une inconnue de notre émission. C'est Françoise Trottignon, membre d'Agora Défense et aussi docteur en préhistoire. Le thème de nos trois futures émissions avec Françoise Trottignon sera Maurice Bourlon. Alors, qui est Maurice Bourlon? Eh bien, notre première émission sera consacrée à l'homme et à sa vie. Notre seconde émission, eh bien, ce sera Maurice Bourlon, préhistorien. Et enfin, notre dernière émission abordera les répercussions de la méthode, entre guillemets, Maurice Bourlon, dans la connaissance scientifique des premiers hommes. Alors Françoise, bonjour tout d'abord.
Bonjour.
Alors pour débuter cette première émission, je m'inspire du titre d'un de vos articles de Marmagne au Congrès de Monaco, « Le parcours d'un préhistorien berrichon, le capitaine Maurice Bourlon ». Alors, une simple observation, François. De Marmagne à Monaco, la distance est grande en kilomètres, mais pas uniquement. Parlez-moi un peu de cette famille Bourlon et aussi de cet enracinement au pays de Marmagne. Françoise, Marmagne.
Eh bien, alors... Oui, Marmagne, c'est la France profonde, oui. Évidemment. Mais Maurice Bourlon est le fils de commerçants très aisés de Bourges qui avaient un magasin de mercerie rue Moyenne qui s'appelait La Pelote. Donc ils ont un enfant qui s'appelle Maurice, qui est né en 1875. Et comme ils sont extrêmement aisés, ils ont acheté une villa à Marmagne, une belle maison de style anglo-normand, comme c'est si la mode à l'époque. Et Maurice continue ses études. Lui, il n'a aucun goût pour le commerce, surtout la mercerie. Et il fait, donc il va au lycée à La Fournier, mais il loupe son bac. Bon, il faut savoir aussi qu'à l'époque, c'était quand même beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui, puisque l'année de rhétorique se faisait entièrement en latin et qu'évidemment, beaucoup d'élèves d'aujourd'hui ne l'auraient pas. Mais donc, qu'est-ce qu'on choisit à l'époque pour un jeune homme de très bonne famille? On choisit l'armée. Donc, il s'engage au 85e RI et il s'en va à Cône où il va être fourrier. Mais il va pas rester très très longtemps parce qu'on voit qu'on a quand même affaire à un homme de qualité. Et il fait l'école de Saint-Mexant et il sort lieutenant en 1901. Et il est affecté au 131e régiment d'infanterie. Ce qui ne l'empêche pas de revenir, évidemment, chez ses parents. Et là, comme il s'intéresse à beaucoup de choses, il a probablement, d'ailleurs on a sûrement, ramassé des silex aux alentours de Marmagne, qui sont actuellement au musée du Berry. Donc déjà, c'est ce goût pour la préhistoire et la ruralité. Donc, il est au 131e régiment d'infanterie et il va épouser la fille de voisin qui habite le château du Luette. Donc, oui. Une jeune femme qui s'appelle Marguerite d'Amour. Mais comme son nom ne l'indique pas, ça ne sera pas un mariage très heureux parce que les d'Amour sont une famille un peu excentrique. Lui, l'oncle est artiste peintre. Et d'ailleurs, entre parenthèses, l'oncle élèvera son neveu qui sera quand même... le mari de Sonia Delaunay, quand même. Et il y a un tableau au musée de Bourges donc, que je vais aller étudier. Et ce mariage n'est pas heureux parce que les filles, dès qu'il y a un petit problème dans le couple, elles se réfugient chez leurs parents. C'est toujours « Papa, maman, je vais sécher vos larmes ». Et de la vie de tout le monde, Marguerite a un âge mental de 15 ans. Et ça, Maurice va en souffrir à tel point que plus tard, ils ont un enfant. Il va divorcer et c'est lui qui aura la garde de l'enfant, ce qui est absolument inconcevable à l'époque.
Ah oui.
Bon, et le tribunal dit que techniquement, si on peut dire, il est quand même plus à la hauteur. Donc là, après, il est nommé à Orléans au 131e chasseur à pied et ils ont la douleur de perdre une petite fille à 2 mois et enfin, ils auront un fils qui s'appelle Jean qui va élever, qui va couver comme la prunelle de ses yeux, mais effectivement, la mère n'est pas à la hauteur. Et pour cette nomination au 131e d'infanterie, il écrit, son fils écrit dans ses mémoires que il n'y a pas de doute que son père a été victime de jalousie parce qu'il a eu, avec ses travaux de préhistoire, il a été chevalier d'académie.
Oui.
Donc il était jalousé. Ou comme il avait une pratique religieuse avec l'affaire des fiches du général André, son dossier était marqué en rouge.
Oui.
Ça, c'est très courant à l'époque. Donc, mais à côté de ça, quand on regarde un peu de plus près, ses deux tantes étaient bonnes sœurs. Donc, il n'était pas le seul à avoir une pratique religieuse, mais il est possible qu'il ait été catalogué comme catholique, on va dire.
Catholique,
et que
oui.
Ça a été mal, très mal vu à l'époque de la loi de séparation de l'Église et de l'État.
Oui, d'accord.
Donc, évidemment, dans les chasseurs à pied, il était en première ligne.
Tout à fait. Donc, un Maurice Bourlon qui passe son enfance à Marmagne, et vous dites même qu'il aime cette campagne, qu'il va à la pêche. Alors je suppose qu'il va à la pêche au canal de Berry ou dans l'Yèvre.
Oui.
Une vie simple, je pense.
Une vie simple. Il aime la campagne, il écume les champs, et de par ses lectures, il a un certain goût pour évidemment pour la science préhistorique, qui est une nouvelle science, et toutes ces nouvelles données qui battent en brèche tout ce que la Bible pouvait enseigner, puisque évidemment l'existence de l'homme est bien antérieure à 6000.
Exactement. Alors Maurice Bourlon est pris, comme beaucoup de ces jeunes hommes, eh bien dans cette guerre qui va éclater au mois d'août 1914. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ces quelques mois de cette guerre où malheureusement il est tué dès le mois d'août 1914.
Alors il habitait donc à Orléans.
Oui.
Et il est détaché à Pithiviers dans une petite unité du 131e et il est affecté au fort de Belle-Épine à Charny-sur-Meuse où il devient capitaine au 19e bataillon de chasseurs à pied. Donc les chasseurs à pied, c'est ceux qui sont en pôle position.
En pôle position, oui.
Et puis il sera à Verdun juste avant la guerre, dans un cantonnement qui est loin de tout. Alors il dit qu'heureusement qu'il a son piano et qu'ils font des entraînements et que ses soldats iront à la guerre comme à l'exercice. Mais hélas, il est mort le 21 août 14, donc ça n'a pas traîné. Hein, et il tombe au champ d'honneur au combat d'Igny, en Meurthe-et-Moselle, non loin de Givry-Circourt. Et son nom figure sur le monument aux morts.
Alors on a essayé, je crois, sa famille a essayé de savoir de quelle manière il avait été tué. Est-ce que vous avez un témoignage beaucoup plus précis? Je crois que c'est une de ses tantes ou une de ses...
Eh bien,
oui.
Il y a le texte de la citation, parce que
vous
savez,
voilà,
que l'illustration,
oui.
Tous les ans, il y avait des encarts.
Oui.
Et avec des petits portraits ovales et le texte de la citation. Je dois dire qu'il y en a des pages et des pages et que c'est effrayant.
Ouais. L'illustration, je rappelle à nos auditeurs, l'illustration, c'est un hebdomadaire qui va paraître, qui est très ancien, hein, qui doit donner du Second Empire, hein, qui va paraître jusqu'en 1944. Et en particulier, l'illustration, c'est un remarquable, c'est le Paris Match, entre guillemets, de l'époque, avec beaucoup plus de ruchets de manière assez extraordinaire. Et l'illustration, comme le dit Françoise Trottignon, pendant les numéros de guerre, vous aviez systématiquement une double page avec tous les soldats cités. Et je pense que Maurice Bourlon a été cité. Est-ce que vous pourriez nous redire?
Alors, le titre de la citation,
oui.
C'est « Détacher les 19 et 20 août en reconnaissance dans un bois, presque entouré de toutes parts. Il a maintenu la discipline la plus complète dans sa section, a pu rejoindre le régiment le lendemain 21, après avoir perdu ses deux sergents et 37 hommes sur 50. Après avoir enlevé un bois à la tête de sa compagnie, qu'il ne cessait d'entraîner par son exemple et sa bravoure, il est tombé mortellement frappé en la jetant encore en avant. »
Tout à fait.
Donc, acte de décès à ce combat, procès verbal de l'exhumation de son corps le 18 février. Et maintenant, il repose au cimetière militaire de Pierrepont, la tombe 1101.
Très bien. Donc, Maurice Bourlon, oserais-je dire un parcours... je dis pas normal, mais entre guillemets, de cette malheureuse jeunesse tombée au champ d'honneur, hein, au mois d'août 1914. Donc Maurice Bourlon, dans ce que vous venez de dire, Françoise, un homme profondément attaché au monde rural, attaché aussi à la découverte, ce que nous allons voir dans la seconde émission, hein, de ses premiers silex et de toute l'évolution et toute la suite qui va se faire. Maurice Bourlon, donc un témoin d'une époque, préhistorien, mais aussi valeureux patriote, mort au champ d'honneur. Merci Françoise pour cette histoire de vie de Maurice Bourlon, au cœur de ce 19e point vacillant et début du 20e siècle. Merci aussi à vous, auditeurs, auditrices, pour votre fidèle écoute sur RCF, avec Agora Défense, sur l'histoire militaire du Cher et du Berry, au travers de personnalités au destin singulier et souvent encore inconnues du grand public. J'en profite aussi pour vous souhaiter une belle année 2020 à l'écoute de RCF. Merci à vous.